Mondial Sport sur RFI. Éric Chorin.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous sportif du week-end sur RFI. Alice Ménard est à la réalisation ce soir et Hugo Moissonnier m'accompagne pour la partie africaine de l'émission où le foot sera roi avec la fin des qualifications pour le CHAN 2020. Nous connaissons également les premiers qualifiés pour ce CHAN 2020. Rencontre ensuite avec Nelson Lekong Bangaman, le gardien camerounais du V-Club de Kinshasa qui entame sa 12e saison avec le club congolais. Angleterre, Nouvelle-Zélande, c'est l'affiche de la première demi-finale de Coupe du monde de rugby. Cédric de Oliveira sera avec nous pour en parler depuis le Japon à la veille de Galles-France et Japon-Afrique du Sud. Retour sur le parcours du Tour de France cycliste 2020 révélé cette semaine. Et attention, ça va monter dès la première semaine. Ne manquez pas non plus notre coup de projecteur sur la reprise de la NBA. Le duel entre les deux franchises de LA, Lakers-Clippers, pourrait marquer la saison. Enfin, après la mort tragique du boxeur Patrick Day, des suites d'un chaos, Antoine Grenier s'est penché sur la sécurité des boxeurs professionnels et s'est demandé ce qu'en disait le monde médical. Mais tout de suite, le football à la une avec un week-end décisif en Afrique. Bonsoir Hugo Moissonnier.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Un week-end Hugo décisif pour connaître tous les qualifiés pour le prochain CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Et Hugo, aujourd'hui, 6 pays ont validé leur billet pour le Cameroun.
Oui, et c'est jour de fête, je vous l'annonce, ah. Au Togo. Pour la première fois de leur histoire, les éperviers disputeront un CHAN, soit la CAN des joueurs locaux. Cette qualification, il a fallu batailler pour l'obtenir sur le terrain du Nigeria, finaliste, on le rappelle, de la précédente édition. Les Togolais se sont fait peur ce samedi après leur brillante victoire à l'aller 4-1. Ils ont été battus 2-0 à Lagos ce samedi, cet après-midi. Qualification in extremis donc des Togolais, mais qualification quand même. La satisfaction donc de l'attaquant Gelly Kofi au micro de Bright Abiola.
C'est une grande fierté. Heureux, joyeux sont nos sentiments. Puisque en venant ici, la mission c'est de se qualifier pour cette compétition pour une première fois. Et aujourd'hui, je crois que cette génération dorée l'a fait. Nous ne sommes que contents.
Quelle a été la force du Togo ce soir ici?
Et depuis ces éliminatoires, le début de ces éliminatoires, notre force c'est le mental et la cohésion dans le groupe. Et vous ne savez même pas celui qui joue, vous ne savez même pas celui qui ne joue pas. L'entraîneur comme le joueur qui est sur le terrain, le staff technique a fait un très bon boulot. Ils ont fait confiance à un noyau et aujourd'hui nous voyons cela. Et c'est grâce aussi à la répétition du championnat qui s'est étalé sur 3 dernières années. Il n'y a pas eu d'interruption. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le fruit de ce championnat, c'est la qualif pour le CHAN.
Qualification du Togo, en effet, grosse désillusion en revanche pour Madagascar. Mada, qui était pourtant bien parti face à la Tanzanie, les Baréas s'étaient imposés chez eux 1-0, mais au retour ce samedi, ils se sont inclinés 2-0. Après la CAN mémorable de l'été dernier, 2019 ne sera donc pas l'année de toutes les grandes premières sur la grande île.
Ça passe hein, en revanche pour le Maroc, le tenant du titre.
Les Lions de l'Atlas qui ont validé leur billet avec la manière, s'il vous plaît, contre le voisin, l'Algérie. L'Algérie est vainqueur de la CAN chez Léa, mais qui ne verra pas le CHAN chez les A'. Sinon, billet 3-0 pour le Maroc face à l'Algérie, pardon. Sinon, billet validé pour le Rwanda au dépens de l'Éthiopie, pour l'Ouganda contre le Burundi et pour la Zambie face à Eswatini. Demain dimanche, suite et fin des éliminatoires de ce CHAN 2020, Mali-Mauritanie, Guinée-Sénégal ou encore Côte d'Ivoire-Niger à l'affiche, la RDC va également tenter de se qualifier pour le CHAN face à la Centrafrique. Le CHAN, c'est un tournoi qu'elle a remporté à 2 reprises après tout.
Et direction justement la République démocratique du Congo avec une rencontre, celle d'un personnage emblématique de la Linafoot, le championnat de la RDC.
Alors il n'est pas congolais, mais camerounais. C'est un gardien, celui de l'ASV Club de Kinshasa. Il est un peu plus jeune que vous, Eric.
Ah oui,
il est un peu plus vieux que moi également. Il s'agit de Nelson Lekong Bangaman, portier qui va bientôt fêter son 39e anniversaire. C'est un âge avancé, certes, mais l'heure de la retraite n'a pas encore sonné pour celui qui aura notamment disputé 2 finales de Coupe d'Afrique avec l'ASV Club, celle de la Ligue des Champions en 2014, celle de la Coupe de la Confédération en 2018. Nelson Lekong Bangaman avec Kabulo Mwanda Kabulo.
Depuis que je suis arrivé dans cette équipe, depuis 2008-2009, j'étais soutenu vraiment par ces supporters de cette équipe que j'ai beaucoup aimé. Ils m'ont beaucoup soutenu depuis mon arrivée dans le club jusqu'à aujourd'hui et je remercie beaucoup de tout soutien qu'ils m'ont donné jusqu'à aujourd'hui. Aussi, je remercie aussi le président de cette équipe, le général Amissi Tangofo, qui m'a récupéré au Cameroun. Je suis arrivé ici, donc je suis vraiment reconnaissant avec ce papa qui m'a soutenu aussi.
Bongaman Lukong, en 11 années, vous avez parlé de ça d'ailleurs, vous aviez joué deux finales en 2014 en Ligue des Champions, vous avez perdu en Algérie. En 2018, en Coupe des vainqueurs de Coupe, vous avez perdu contre le Raja. Est-ce que c'est un mauvais souvenir pour vous?
Moi, j'ai beaucoup donné dans cette compétition africaine. 15 ans que je me bats pour cette compétition, pour avoir la trophée, parce que c'est le seul trophée qui me manque, soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF, ça me manque beaucoup. Je suis arrivé à jouer des finales perdues, mais je crois toujours en Changneva, c'est pas encore tard. Je crois toujours à mes qualités, je crois toujours qu'il y a la force de soulever ce trophée.
C'est que nous disons justement, en dépit de votre 9 ans, vous êtes toujours performant et régulier, et ce qui fait de vous les titulaires indiscutables au sein de cette formation.
Ça vient de la discipline. Quand tu es discipliné dans ton travail, tu vas arriver. Moi, après l'entraînement, j'ai fait aussi certains travaux à la maison. Je travaille avec la corde, j'ai fait beaucoup les abdos. Donc, je ne fais pas seulement les entraînements avec le club. À la maison aussi, je le fais aussi. Et je pense que c'est ça qui me permet d'avoir eu la réflexe jusqu'à aujourd'hui.
Vous êtes un très très bon gardien. Est-ce que l'équipe nationale du Cameroun vous manque?
Bien sûr, chaque joueur a toujours envie de jouer dans son pays, mais si je n'ai pas eu la chance de jouer chez nous, j'ai vraiment tout donné. J'ai pensé que je méritais aussi une fois avoir cette occasion, mais comme ce n'était pas donné, bon, mais moi je suis content de mon carrière que je suis fait dans le football.
Et vous est arrivé de penser de changer de nationalité une fois pour jouer chez les Léopards?
Bien sûr, si on m'a choisi de rendre service à ce pays que je suis là depuis 11 ans, bon, je pense que je suis déjà comme un Congolais, pas de problème, je peux le faire.
Et votre coach Florent Ibenge vous apprécie beaucoup, il m'a dit que vraiment ce qui m'étonne, Lukong est de petite taille, mais il est performant.
Tu sais que quand tu es un gardien qui a un petit détail, tu dois travailler beaucoup, surtout dans les ballons aériens. Donc depuis que j'ai compris que je n'ai pas vraiment de très grand détail, je me travaille tous les jours, comme je viens de vous dire tout à l'heure, que chaque jour je travaille avec la corde à la maison. Là, c'est pour me permettre d'avoir les bons réflexes pour les ballons aériens.
Vos relations avec le coach Florent Ibenge, il semble que les relations sont très très bonnes.
Oui, je suis très bien avec lui. Depuis qu'il est arrivé dans Vita, moi je n'ai pas de problème avec lui. On est très bien, on travaille. C'était un bon papa qui donne les bons conseils, m'a aussi conseillé dans beaucoup de choses. Donc, je remercie aussi d'avoir un papa comme ça, qu'il a une bonne vision pour les jeunes. Je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour le football congolais. Il a fait monter beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui dans le championnat, la Ligue 1 en France. Et vraiment, je félicite ce papa avec tout ce qu'il a donné dans cette équipe.
Nelson Lukong avec Kabuno Mwana Kabulo. Nelson Lukong qu'on retrouvera lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions bientôt avec les clubs. Il retrouvera notamment le Raja Casablanca.
Des retrouvailles, on suivra ça attentivement. Le football européen, en bref, maintenant en Espagne, Barcelone a ouvert la 9e journée de Liga en s'imposant 3-0 à Eibar. Antoine Griezmann, Lionel Messi et Luis Suarez ont chacun marqué leur but et ont bien combiné ensemble. Il était temps. Griezmann offre le deuxième but à Messi et l'Argentin le troisième à Suarez. Et puis le choc du jour, c'était Atlético Madrid-Valence. Il s'est conclu sur un nul, un but partout. Et puis ce soir, la grosse surprise, elle est venue de Mallorca, le promu qui a fait chuter le Real Madrid 1-0, un but inscrit par l'Ivoirien Lago Junior dès la 7e minute du match. Si on avait dit à Lago Junior qu'il serait la vedette de la soirée, il ne l'aurait peut-être pas cru. Au classement du coup, le Barça passe devant le club madrilène, 19 points contre 18. Grenade est 3e, 1 point plus loin, juste devant l'Atlético Madrid. En France, les résultats de la 10e journée permettent au PSG de prendre un peu plus le large. Vainqueur 4-1 à Nice hier soir, le club parisien compte désormais 5 longueurs d'avance sur son premier poursuivant, Nantes, qui a chuté chez la Lanterne Rouge avant cette journée. Metz, 1-0, un but signé évidemment par le Sénégalais Habib Diallo pour les Grenats. Reims est 3e, 2 points plus loin après sa victoire 1-0 sur Montpellier grâce au Marocain Younis Abdelhamid. Et puis on note également la victoire de Toulouse 2-1 face à Lille. Yaya Sanogo et Max-Alain Gradel ont marqué les buts toulousains qui étaient dirigés pour la première fois, non pas les buts hein, mais les Toulousains, par Antoine Comboiré. Enfin, l'arrivée de Rudy Garcia à Lyon n'a pas tout changé. 8e match en victoire en Ligue 1 pour l'OL, tenu en échec à domicile par Dijon. 0-0, pas idéal à 4 jours du match de Ligue des Champions contre Valence. Et puis en Angleterre, en attendant le déplacement de Liverpool à Manchester United demain pour une possible 9e victoire en 9 matchs, eh bien les plus proches poursuivants des Reds ont gagné aujourd'hui. 2-0 pour Manchester City sur la pelouse de Crystal Palace. 2-1 pour Leicester face à Burnley et 1-0 pour Chelsea contre Newcastle. City est 2e à 5 points de Liverpool. Leicester et Chelsea suivent 2 longueurs plus loin. On change de ballon, le roncel de la place à l'ovale, Angleterre-Nouvelle-Zélande, c'est l'affiche de la première demi-finale de la Coupe du Monde de rugby au Japon. Anglais et Néo-Zélandais impressionnants, respectivement face à l'Australie et à l'Irlande. On retrouve tout de suite pour en parler notre envoyé spécial au Japon. Bonsoir Cédric de Oliveira.
Bonsoir Eric.
Cédric, on va commencer par parler de la démonstration de la Nouvelle-Zélande face à l'Irlande.
Oui, c'était pourtant le choc de ces quarts de finale, mais les doutes sur le vainqueur se sont rapidement dissipés. Les All Blacks qui ont tout de suite imprimé un rythme infernal aux Irlandais, qui ont craqué une première fois au quart d'heure de jeu sur un essai d'Aaron Smith, un essai transformé. Et à partir de là, c'est devenu impossible pour le 15 du trèfle de contenir les assauts néo-zélandais. Smith a de nouveau été aplati dans l'embut avant un autre essai de Bowden Barrett. Et il y avait 22-0 à la pause, le match était déjà plié. Le 15 du trèfle qui a eu le mérite de ne pas s'effondrer en inscrivant deux essais, mais les Blacks ont encore insisté. Taylor, Todd Bridge et Jordi Barrett, le frère de Bowden, ont donné au score une ampleur impressionnante, 46-14. Grande favorite de ce mondial, la Nouvelle-Zélande sera au rendez-vous des demi-finales.
Les All Blacks, Cédric, qui affronteront l'Angleterre pour une demi-finale de rêve, le 15 de la Rose, implacable lui aussi face à l'Australie.
Les Anglais qui ont mis un peu plus de temps à prendre la main sur ce match. D'ailleurs, ce sont les Wallabies qui ont ouvert le score sur une pénalité de Leali Fano. Des Australiens très entreprenants, mais qui ont commis trop d'erreurs dont ont su profiter les Anglais. Johnny May a d'ailleurs aplati deux fois dans l'embut en 3 minutes. Owen Farrell a fait le reste au pied. 100% de réussite pour le joueur anglais. Le capitaine, impressionnant de justesse pour guider le 15 de la Rose. Il y avait 17-9 au bout de 40 minutes. Et même si l'Australie est revenue à un petit point à l'énergie au retour des vestiaires, eh bien les Anglais, très efficaces, n'ont jamais dévié de leur plan de jeu. 40-16, score final. De quoi satisfaire leur entraîneur australien, Eddie Jones. Écoutez-le dans un style bien à lui.
C'était un match à quitte ou double aujourd'hui. Et le meilleur samouraï est toujours celui qui a un plan précis en tête, mais qui est aussi capable de s'adapter. Celui qui peut garder la tête froide, mais qui est plein d'agressivité. Je pense que ça résume bien notre implication. On a commis une ou deux erreurs qui les ont aidés à revenir dans le match, mais j'ai été impressionné par la capacité de mon équipe à se remobiliser. La question maintenant, c'est comment s'améliorer, car il y a toujours un samouraï plus fort qui attend derrière.
Voilà, Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre. Angleterre-Nouvelle-Zélande, ce sera à suivre samedi prochain à Yokohama pour une affiche qui promet énormément.
Cédric, rapidement, les deux derniers quarts de finale vont opposer l'Afrique du Sud au Japon et la France au Pays de Galles.
Des Bleus qui ne partiront pas favoris de ce duel face aux Gallois, ils ne les ont battus qu'une seule fois en 8 confrontations. Le 15 du Poireux, auteur du Grand Chelem, on le rappelle, lors du dernier tournoi Destination. Ce sera dur pour les Français qui, malgré leurs 3 victoires en 3 matchs, n'ont pas non plus rassuré face à l'Argentine, les États-Unis et les Tonga. Toujours cette même impression d'inconstance, mais ils l'ont dit et répété cette semaine, ils sont convaincus de pouvoir créer la surprise.
Et il y aura aussi un match attendu par tout un pays, le Japon, face à l'Afrique du Sud.
Les Brave Blossoms, nouvelle icône du pays après leur premier tour parfait, 4 victoires en 4 matchs. Il y avait pratiquement 60 millions de personnes devant leur téléviseur pour assister à la qualification face à l'Écosse la semaine dernière. Cette fois, le record d'audience devrait être battu face à l'Afrique du Sud. Mais attention, les joueurs de Jimmy Joseph affrontent un poids lourd du rugby mondial. Les Springboks de Rassier Erasmus et de l'ailier Cheslin Kolbe, l'Afrique du Sud qui a en plus un vieux compte à régler. En 2015, lors du précédent mondial, elle avait perdu face à ces mêmes Japonais à la surprise générale. La plongeant dans une période de doute. Les Box seront favoris, mais attention à la fougue des Brave Blossoms.
Cédric de Oliveira, notre brave à nous. Merci Cédric. On vous retrouve demain dans Mondial Sport, même lieu, même heure, après Galles, France et Japon. Afrique du Sud, vous savez quoi? Eh bien, la NBA est sur le point de reprendre. La petite balle orange va de nouveau rebondir sur les parquets nord-américains de basketball avec 2 matchs alléchants pour ouvrir la saison dans la nuit de mardi à mercredi. Les Toronto Raptors, champions en titre, opposés aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui viennent de recruter, on dit drafter, le jeune phénomène Zion Williamson qui est d'ailleurs blessé en ce moment. Et puis le derby très attendu entre les deux franchises de Los Angeles. D'un côté, les Lakers de LeBron James, renforcés par Anthony Davis après une saison décevante. De l'autre, les Clippers qui ont recruté cet été Paul George et Kawhi Leonard, éléments moteurs du titre de Toronto en juin dernier. Elle est au centre de la NBA, autrement dit de la planète basket cette saison. Un reportage de Loïc Piala à Los Angeles.
Doc Rivers salue un par un les chanceux assis en bord de terrain. Mardi, l'entraîneur des Los Angeles Clippers dirige une séance en public. Un cadeau fait aux fans chaque année avant le début de saison. Mais le vrai cadeau, c'est le recrutement des superstars Kawhi Leonard et Paul George. En tribune, Charles a du mal à cacher son optimisme.
Les ambitions sont élevées cette saison. C'est le titre ou rien.
À ses côtés, Larry confirme.
On a le meilleur joueur de la NBA. Kawhi vient de le prouver en gagnant le titre presque tout seul à Toronto.
La veille, au Staples Center, les Lakers disputent un match de préparation contre les Golden State Warriors. Même sans LeBron James et la nouvelle recrue Anthony Davis blessé, les Purple and Gold s'imposent. Nick a hâte que la saison commence.
L'an dernier, c'était déjà intéressant avec l'arrivée du King LeBron James. Mais là, l'addition d'Anthony Davis fait de nous des candidats au titre. On est excités.
L'excitation a aussi gagné la NBA. Elle a programmé le derby en ouverture de la saison et à Noël, journée traditionnelle de grosses affiches. Les deux franchises, elles, s'obstinent à calmer le jeu, à commencer par LeBron James.
Tout le monde parle du grand vainqueur de l'été avec les transferts. Est-ce que c'est les Brooklyn Nets, les Clippers, les Lakers? En fait, c'est la salle du Staples Center. Si vous êtes un fan de basket, vous pourrez voir les Clippers un soir, les Lakers le lendemain.
Même message chez le manager général des Lakers, Rob Pelinka.
Ce qui compte pour nous, ce sont les 15 gars dans le vestiaire. Notre adversaire le plus dangereux est dans le miroir.
Chez les Bleus et Rouges, Paul George ne dit pas autre chose.
On ne se met pas de pression particulière, ce n'est pas forcément l'équipe à laquelle on doit se comparer. Il y a 29 autres équipes à affronter. Ce n'est pas la bataille de Los Angeles.
Ça fait 20 ans que je travaille ici et pour la première fois, la rivalité est légitime. Les deux équipes peuvent finir championnes.
Kurt Sandoval est journaliste pour la chaîne ABC. Il couvre le basket à LA toute l'année.
En termes de popularité auprès des fans, Los Angeles reste à 80% Lakers et 20% Clippers. Pretty cool! Pretty
damn cool! Steve Ballmer, le richissime propriétaire des Clippers, espère bien inverser la tendance. Et visiblement, il compte sur Leonard et George pour y arriver. Fin juillet, il n'y avait pas plus survolté que lui lors de la présentation des deux joueurs.
Come on! Come on!
Allez! 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 Tout le monde debout! Vous croyez qu'on va gagner des matchs avec Paul et Kawhi dans notre équipe? Mais ce qu'il faut, c'est gagner l'ultime match de la saison NBA.
Last game played during the NBA season.
La saison dernière, sa franchise avait surpris la ligue avec 48 victoires, sans star, mais avec une défense intraitable. Et les Clippers ont ajouté la culture de la gagne de Leonard, champion avec San Antonio et Toronto.
Sacrifice, envie de gagner, détermination, connaissance, c'est ce qui pousse une équipe championne et il ne faudra pas se blesser.
Si les Clippers ont une faiblesse, c'est peut-être le manque de joueurs dominants dans le secteur intérieur. Tout l'inverse des Lakers, dont le panier sera protégé par l'imprévisible JaVale McGee, le revanchard Dwight Howard et surtout Anthony Davis, l'un des 5 meilleurs basketteurs du monde.
LeBron et moi, on va s'appuyer l'un sur l'autre. On est deux altruistes avec l'envie de gagner. Ça rend notre travail plus facile. Et autour de nous, il y a des gars qui ont soif de victoire pour nous aider.
Vu le potentiel des deux franchises sur le papier, l'équipe qui dominera LA pourrait bien dominer aussi la NBA. Loïc Tiala, Los Angeles, RFI.
Quelle ambiance à Los Angeles et dans ce studio ici à RFI où Thomas de Saint-Léger nous a rejoint. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Eric, bonsoir Hugo, bonsoir tout le monde.
Hugo est là évidemment, Alice derrière la vitre. On parle cyclisme maintenant et plus précisément du Tour de France 2020. Et oui, déjà, et oui, le départ de la 100e édition sera donné le 27 juin, mais on s'y prend un petit peu à l'avance.
Hein? Là, on n'a pas trop
la centième édition. 107e, j'arrive pas à le dire. C'est loin, mais le parcours de cette 107e a été dévoilé cette semaine. C'était mardi à Paris, sous vos yeux, Thomas de Saint-Léger. Thomas, 3470 km au programme, 21 étapes. On est dans les standards habituels. Pour le reste, le tracé de la course, lui, est assez atypique. Ce qui saute tout de suite aux yeux quand on parle, quand on regarde la carte, Thomas, c'est une concentration d'étapes dans le sud de la France.
Ouais, c'est ça, d'est en ouest, en long, en large et en travers. Le sud est à l'honneur. Le départ sera donné de Nice sur la Côte d'Azur et il y aura autre particularité. Une étape de montagne dès le deuxième jour de course via les ascensions de la Colmiane, du Turini et du Col d'Aise. Ce Tour de France est en quelque sorte le Paris-Nice à l'envers, mais en plus long et avec beaucoup plus de montagnes.
D'ailleurs, c'est assez rare pour être signalé. Les 5 massifs de l'Hexagone seront traversés par le peloton.
Oui, là encore, on casse les codes. Oubliez le classique bloc pyrénéen, bloc alpestre dans un ordre ou dans l'autre. Les 8 étapes de montagne seront éparpillées sur le territoire et dans le déroulement de cette grande boucle. L'idée, c'est d'éviter les temps morts, la succession d'étapes propices aux siestes. Il y aura par exemple une première étape difficile, on l'a dit, le deuxième jour, et une arrivée en altitude le surlendemain à Orcières-Méralette. Comment les coureurs ont-ils accueilli ces innovations? La réponse d'un des grands acteurs du dernier tour, le français Julien Alaphilippe.
Très emballé, c'est un parcours surprenant, avec des ascensions inédites, un départ très difficile. C'est un tour qui s'annonce imprévisible, ça c'est sûr. C'est difficile d'établir un scénario déjà maintenant. Déjà en temps normal, il y a toujours un peu des rebondissements, mais là, un parcours comme ça, ça peut qu'offrir un beau spectacle. J'ai hâte.
On a hâte, nous aussi, comme Julien Alaphilippe, de découvrir les ascensions inédites dessinées par Thierry Gouvenou, le directeur technique de la course.
Autrement dit, Monsieur Parcours, et parmi ces nouvelles pépites incrustées à la carte du Tour, le col de la Lauze au-dessus de Méribel, 2304 mètres d'altitude, l'arrivée de la 17e étape sera jugée au sommet de cette ascension d'un peu plus de 21 km, très irrégulière, environ 8% de pente moyenne, mais des pourcentages terribles par moment, 20%. Alors oui,
j'espère que ce sera pas le col de la Lauze pour certains, le col de la Lauze. Hein, non mais pardonnez-moi.
Pourquoi pas? Oui, je le disais, on peut regretter l'absence des classiques historiques que sont le Tourmalet, l'Alpe d'Huez, le Galibier, mais ce col de la Lauze, si vous voulez, Eric, est appelé à rentrer dans la légende. C'est la promesse du directeur de la Grande Boucle, Christian Prudhomme.
Chaque parcours du Tour varie. Donc l'année dernière, nous sommes passés par le Tourmalet avec une arrivée au sommet. On est passé par l'Iseran qu'on n'avait pas fait depuis une dizaine d'années. On est passé par le Galibier, par Izoard. Là, ce sera différent en effet. On se projette plus vers l'avenir. Mais j'ai la conviction qu'un col comme celui de la Lauze, dès lors que vous l'aurez découvert et vu, vous vous direz « Waouh ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est extraordinaire !» et qu'il prendra à l'évidence sa place assez régulièrement dans le Tour de France. C'est très prétentieux ce que je vais vous dire, mais en voyant le col de la Lauze, j'ai pensé à Henri Desgrange, le créateur du Tour de France, lorsqu'il a découvert le Galibier et qu'il a dit « Oh Bayard, oh Sapet, oh Lafray, à côté du Galibier, vous n'êtes que de la pâle et vulgaire bibine. » Quand on voit le col de la Lauze, on se dit c'est le prototype du col du 21e siècle parce qu'il est différent de tout le reste, précisément parce qu'en fait c'est un chemin qui a été goudronné, c'est le chemin des engins de remontée mécanique pour faire les réparations. Donc le soubassement était fait. Méribel souhaite développer le tourisme estival, ils veulent que les gens passent à vélo, donc ils ont fait une route réservée au vélo mais qui lie les stations par le haut. Et donc la route épouse les courbes de la montagne, c'est hallucinant, vous passez en 100 mètres d'un vague faux plat à un mur et c'est comme ça pendant les 7 derniers kilomètres d'ascension pour arriver à 2304 mètres avec une vue sur le Mont Blanc absolument extraordinaire.
Christian Prudhomme qui raconte le tour comme personne. Autre particularité de ce tour 2020, Thomas, un seul contre-la-montre au programme. Hein.
Oui, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées, 36 km entre Lure et la planche des Belles-Filles, c'est-à-dire avec une montée très difficile. Ça veut dire que les favoris, plutôt rouleurs que grimpeurs, ne seront pas forcément gâtés sur le papier. D'ailleurs, quel est le portrait robot du coureur taillé pour ce parcours? Question posée à celui qui l'a dessiné, Thierry Gouvenou.
Il faudra qu'il soit résistant, qu'il puisse être compétitif sur 3 semaines parce qu'on a des étapes de montagne disséminées tout au long des 3 semaines. Et puis je pense qu'il faudra qu'il ait aussi beaucoup de punch parce qu'on a mis des pentes assez rudes avec des ruptures de pente et je pense que seuls les purs grimpeurs devraient s'en sortir d'un tel parcours.
Un duel entre purs grimpeurs comme Thibaut Pinot ou Egan Bernal, le vainqueur sortant, on en rêve. Rendez-vous du 27 juin au 19 juillet 2020.
Le monde de la boxe, de nouveau en deuil. Patrick Day est mort mercredi des suites d'un chaos après 4 jours dans le coma. L'Américain n'est pas le premier boxeur professionnel décédé ainsi cette année, relançant le débat, voire la polémique sur ce sport qui cause des lésions cérébrales irréversibles et parfois fatales. Alors, qu'en dit le monde médical? Est-il possible de mieux protéger les boxeurs à l'avenir? Un sujet d'Antoine Grenier.
Ils sont au moins 3 cette année à avoir perdu la vie sur un ring. Patrick Day ajoute son nom à ceux de l'Argentin Hugo Santillan et du Russe Maxime Dadachev, tous décédés de lésions cérébrales irréversibles. Voilà qui rappelle encore plus de mauvais souvenirs au monde de la boxe et notamment au corps médical, dans un sport où la tête est particulièrement exposée et visée. La tension est forcément décuplée. Amin Mokhtar Benounan, médecin fédéral à la Fédération Française de Boxe.
À chaque fois qu'il y a un accident, les médecins de la boxe se disent tous la même chose.
Ce type-là s'est pris un KO il n'y a pas longtemps. Parce que le problème, ce n'est pas le premier coup. Le problème, c'est le coup d'après. Ouais, c'est ce qu'on essaye d'éviter au rugby. C'est-à-dire que le type qui se prend un KO et qui s'en reprend un quelques jours après. Et c'est là qu'on a l'accident. Et moi, j'en parle avec, bien évidemment, avec les entraîneurs. Tous les problèmes sont là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un accident, on se dit « Ah là là, celui-là, à coup sûr, pendant un entraînement, il s'est pris un KO. »
En France, pour l'heure, aucun accident de ce type n'a conduit au décès d'un boxeur. Les pros sont d'ailleurs très surveillés. Les examens médicaux au niveau du cerveau sont réguliers. Les médecins délivrent après un KO une période de repos de 30 jours, pas toujours respectée. La Fédération française de boxe est pourtant attentive à la question des commotions cérébrales. Sur son site internet, plusieurs documents y sont consacrés. Des informations à destination des boxeurs, pros comme amateurs, mais également de leurs entraîneurs. Une fiche même décrit les commotions cérébrales et les mesures de prise en charge. Les arbitres eux-mêmes suivent des formations délivrées par des médecins spécialisés parce qu'ils sont les premiers sur le ring à pouvoir détecter si un boxeur est touché. Michel Corbière, président de la commission des officiels de la FFB.
On a un certain nombre de petites astuces, hein, notamment communiquées par les médecins pour voir s'il est lucide pour prendre une décision d'arrêter ou pas le combat. Parce que bien évidemment, quand vous posez la question au boxeur, hein, ça va, le boxeur, il n'a pas envie d'arrêter. Et donc là, vous avez des petites astuces qui consistent à regarder ses yeux, ses pupilles et de voir s'il suit vos mouvements. Vous promenez votre main devant ses yeux et vous voyez s'il suit bien votre main et vous le faites avancer d'un pas ou deux vers vous en lui demandant si ça va. Et là, vous voyez s'il n'est pas, comme on dit, pour parler vulgairement, dans le gaz ou pas.
Et c'est une des questions posées par le décès de Patrick Day. Malgré le premier coup qu'il reçoit de Charles Conwell, coup qui laisse le boxeur visiblement groggy, l'arbitre ne bronche pas. C'est seulement après deux nouveaux coups, qui cette fois le mettent au sol, que l'officiel intervient. Était-ce trop tard ? L'arbitre n'a fait qu'appliquer le règlement, juge Michel Corbière.
On voit bien que la suite de ce premier coup, il a pu les réactions, notamment à travers son déplacement, on voit bien qu'il a pu toutes ses facultés, quoi. Cette chose-là, en amateur, l'arbitre intervient tout de suite. En professionnel, il peut pas le faire. Parce que il n'est pas au sol, il n'est pas retenu par les cordes, et il peut pas être compté debout. L'arbitre est prêt à intervenir, mais bon, s'il arrête le combat, on va lui reprocher de ne pas avoir respecté le règlement.
Un règlement à revoir, une culture entière même, estime Amin Mokhtar Bennounan. Pour lui, améliorer la sécurité des boxeurs passe par un travail de fond, mais la médiatisation des combats et les sommes d'argent en jeu ont repoussé au second plan la santé des athlètes, même dans la boxe amateur.
Dans les années 80, il y a eu, je pense, prise de conscience des dangers et on a essayé de rendre la boxe moins violente. Les boxeurs amateurs avaient des casques et la façon de comptabiliser les points était différente, c'est-à-dire qu'on comptait les touches. L'AIBA, l'Association Internationale de Boxe Amateur, a abandonné ce mode de jugement. Donc, ce qu'il faut maintenant, et ça les boxeurs l'ont tout de suite compris, c'est pas tant marquer des touches sans en recevoir, marquer des points sans en recevoir, c'est d'impressionner le juge. Et on assiste à une boxe qui devient de plus en plus violente, c'est-à-dire que c'est des boxeurs qui, certes, mettent plus de coups et qui en reçoivent quasiment autant.
Le désarroi des boxeurs transparaît dans le communiqué du promoteur du combat fatal à Patrick Day. Il est très difficile d'expliquer ou de justifier les dangers de la boxe dans un moment pareil. Cependant, l'heure est venue de passer à l'action, estime Lou Dibella. La boxe, confrontée à ses éternels paradoxes de sport violent, mais désormais à la recherche de normes de sécurité plus strictes.
Antoine Grenier sur RFI, ce mondial sport est bientôt sur le point de se refermer. Hugo, quand même, le tirage au sort de la CAN de handball a eu lieu. On connaît les groupes pour cette édition qui va avoir lieu en Tunisie au début de l'année 2020.
Exactement, tirage au sort qui a livré son verdict. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire seront dans le groupe de la Tunisie, justement, tenante du titre, mais également pays hôte, la République démocratique du Congo. Elle est dans la poule de l'Égypte, un gros morceau de la Guinée, du Kenya également, le Gabon hérite de l'Angola, alors que le Congo, Brazzaville et le Sénégal se retrouvent dans un groupe de 5 avec le Maroc et l'Algérie, deux autres nations, deux autres valeurs sûres du handball africain. La CAN aura lieu, vous l'avez dit, début 2020, du 16 au 20 janvier pour être précis.
On vous retrouve demain, Hugo Massonnier. L'émission sera quasiment toute à vous avec les résultats des éliminatoires du CHAN. Et Alice Ménard reviendra également pour réaliser cette émission.